France Musique. Musicopolis. Rachmaninov, 1917, Moscou. Sitôt que j'examinais de plus près les hommes qui tenaient en main le destin de notre peuple et du pays tout entier, je vis très clairement que c'était le début de la fin. Pratiquement dès le début de la Révolution, je me suis rendu compte qu'elle était en de mauvaises mains. C'est en 1930 que Rachmaninov se confie au musicologue Oscar von Riesemann. Il ajoute « Déjà en mars 1917, j'avais pris la décision de quitter la Russie, mais j'étais incapable de réaliser mon projet, car l'Europe était encore en guerre et personne ne pouvait franchir les frontières. Je me retirai donc à la campagne où je passais l'été. Ce devait être mon dernier été en Russie. » Au début de l'été 1917, alors que son angoisse devant les événements monte de plus en plus, Rachmaninov s'est reposé pour la dernière fois dans la ville thermale d'Essentouki, dans le Caucase. Et il a donné un concert de charité, non loin, à Kislodovsk, le 28 juillet. Au mois d'août, il emmène sa famille en vacances dans la petite station balnéaire de Simeitz, en Crimée, non loin de chez son ami Chaliapin. Chaliapin et Rachmaninov se connaissent bien, ils sont amis depuis leur jeunesse. Nés tous les deux la même année, 1873, ils ont fait leurs armes ensemble à l'opéra privé de Moscou à partir de 1897, sous la direction du metteur en scène Mamontov. Ils ont vécu une grande amitié, jointe à une totale complicité musicale. Tous les deux ont une grande exigence. Tandis que Rachmaninov, dans son rôle de chef, fait considérablement monter le niveau de l'orchestre, Chaliapin, lui, contrôle tout ce qui concerne son personnage. Il se charge de son propre maquillage, il vérifie la préparation de ses costumes, il s'investit à fond dans la préparation musicale et dramatique, il surveille la mise en scène. Tous ceux qui le connaissent témoignent de sa force vitale presque surhumaine, de sa chaleur et de son intolérance féroce pour la médiocrité artistique.
Дай собой светлой храброй соперник.
Pendant qu'il est à Seamates, en Crimée, Rachmaninov donne un concert à Yalta, station très prisée et très chic sur le bord de la mer Noire à une vingtaine de kilomètres. Bien avant la conférence, qui aura lieu en 1945, c'est un lieu où se retrouvent les Russes pour les vacances, sous un soleil méditerranéen. Avec le chef Alexandre Orlov, Rachmaninov joue à nouveau le premier concerto de Liszt. Avec cette séance du 5 septembre 1917 à Yalta, Rachmaninov a donné son dernier concert en Russie, ce qu'il n'a sans doute pas réalisé. La situation politique continue à se compliquer. L'offensive de juillet, décidée par le ministre de la guerre Kerensky, s'est soldée par un désastre militaire qui a montré à quel point l'armée était affaiblie. La position du gouvernement provisoire est encore plus instable, et encore davantage après la chute de Riga, nouvelle défaite militaire. Le 14 septembre, la République est proclamée. C'en est fini de l'Empire russe. Mais le gouvernement ne gagne toujours pas en popularité, en particulier parce qu'il refuse d'entamer des négociations avec l'Allemagne pour désengager la Russie du conflit mondial. Pendant ce temps, Lénine prépare la prise du pouvoir par les bolcheviks. Thank you. Le 25 octobre, les bolcheviks prennent le pouvoir à Petrograd. C'est le début de la révolution d'octobre. Une semaine plus tard, ils sont à Moscou. Moscou, où Rachmaninov est revenu avec sa famille, après avoir passé l'été en Crimée. Ils sont dans leur appartement du boulevard Strastnoï. Et Serge s'est lancé dans une tâche longtemps repoussée. Il travaille autant qu'il peut. Il ne prête même pas attention aux balles qui sifflent et qui laisseront des marques sur les immeubles moscovites. Plus tard, il raconte « Lors de la seconde phase de la révolution, l'insurrection des bolcheviks, je vivais encore dans mon vieil appartement de Moscou. Je commençais à réécrire mon premier concerto pour piano et démarrer une nouvelle composition, le quatrième concerto. » Le 8 novembre, la République russe est renversée par les bolcheviks. Le 10 novembre, Rachmaninov achève la révision de son premier concerto. Il envoie le manuscrit à son éditeur, qui se trouve être à présent le chef Serge Koussevitsky, qui a racheté les fonds du premier éditeur de Rachmaninov. Tout ce que peut faire Serge à présent est de travailler son piano. Mais dans quel but ? Toutes les activités artistiques sont arrêtées, on ne sait pas pour combien de temps. Et en attendant, il doit se soumettre au nouvel ordre égalitaire. Il est de fait membre de son comité d'immeuble et comme tout le monde, il doit prendre son tour de garde la nuit pour surveiller le pâté de maison avec les camarades concitoyens. Une activité qui lui est probablement peu agréable. Il a un caractère très solitaire et il a toujours vécu dans un environnement social assez bourgeois. trois semaines après le début de la Révolution d'octobre, Rachmaninoff reçoit un télégramme de Stockholm, d'un organisateur de concerts suédois qui lui propose une tournée en Scandinavie. C'est la première offre de concert qui lui arrive de l'étranger depuis le début de la guerre. Il la décrira plus tard comme un événement totalement inattendu qu'il ne peut attribuer qu'à la grâce divine et non au hasard. Ses dernières compositions russes sont datées des 14 et 15 novembre 1917. Ce sont quelques pièces pour piano. Si l'esquisse orientale semble raconter l'effervescence de l'époque, celle qui prendra le nom de prélude résonne des sons des cloches de Moscou. Le 1er décembre 1917 est décrétée la nationalisation des théâtres, avec dans un premier temps une direction élue. Le commissariat à la culture entend mener une politique d'accès à la culture plus égalitaire, ce qui implique de baisser les prix des places. Mais les conditions économiques font que même avec des billets très bon marché, les spectateurs ne viennent pas. Et les salles, le Bolshoï par exemple, vont bientôt faire face à d'énormes déficits. Les difficultés sont accentuées par les dissensions idéologiques au sein des milieux révolutionnaires. Les plus proches des bolcheviks veulent la liquidation de l'opéra comme genre bourgeois, qu'il faut remplacer par de grands spectacles d'actualité qui déplacent des foules immenses à ciel ouvert. Quant à Lunacharsky, le commissaire à l'instruction publique, il veut conserver les meilleurs théâtres afin que le passé culturel soit assimilé et donne naissance à l'art nouveau. Dès le 26 octobre 1917, Trotsky, commissaire du peuple aux affaires étrangères, a proposé aux alliés et aux puissances d'Europe centrale une paix générale. Le 15 décembre, c'est le début d'un armistice prévu pour une durée de 2 mois. À cette même date, paraît un entrefilet dans le journal Le Jour. Serge Rachmaninoff va entreprendre une tournée en Norvège et en Suède. La tournée durera un peu plus de 2 mois. Le compositeur se rend à Petrograd pour obtenir des permis pour toute la famille. Il n'emporte avec lui que quelques partitions. Le début de son opéra Monavana, sur lequel il travaille depuis 10 ans déjà, les dernières pièces pour piano, un cahier d'esquisses et le Coq d'or de Rimsky-Korsakov. Quelques jours plus tard, les papiers sont en règle, il peut faire venir sa femme et ses filles à Petrograd, d'où il monte dans un train pour la Finlande. L'ami Chaliapine n'a pas pu venir à la gare, mais il leur a fait parvenir une boîte de caviar et du pain maison pour le voyage. Le 24 décembre, ils arrivent à Stockholm. Rachmaninov vivra désormais en exil. Il ne terminera jamais Monavana. La vocalise de Rachmaninov dans sa propre orchestration et sous sa direction avec l'orchestre de Philadelphie, enregistré le 20 avril 1929. Tout le programme, la réécoute et le podcast de toute cette série Rachmaninov sont à présent sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Bruno Mourlan pour le mixage, Claire Lagarde pour la réalisation et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.